Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Avant de démarrer cette 18e émission de Quelles sont les nouvelles, je voulais remercier Christine Naumann-Villemain d'avoir accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour prêter sa voix à une longue nouvelle écrite par Sophie Loubière. Cette autrice de nouvelles, de romans, de chroniques est également très connue du public pour ses émissions radiophoniques. Je garde par exemple un bon souvenir de son émission « Dernier parking avant la plage » diffusée sur France Inter. Sophie Loubière est née à Nancy et c'est là que nous l'avions rencontrée lors d'un festival 12 000 signes dont elle était la marraine. Elle avait accepté immédiatement de nous offrir une nouvelle pour la revue Les Refusés, celle que nous allons vous lire maintenant. Voici donc la dépression Félix.
Mettre le contact, boucler ma ceinture. Dans un instant, Félix ouvrira la portière et prendra place à côté de moi. Je n'aurai pas droit à l'erreur. La chance d'être seule avec lui dans un espace clos ne se représentera pas de sitôt, et je le sais. Pff, foutue horloge de l'existence et foutu désir qui gronde et me dévaste. J'ai préparé mon piège à oiseau. Cherché hier soir sur Google l'art et la manière de séduire un homme. La pratique de ce genre d'exercice est loin derrière moi. Ma dernière victime remonte à 2 ans. Une rencontre avec un romancier dans un festival. Un beau fiasco dont ni l'un ni l'autre ne s'est jamais vraiment remis. Mais cela m'aura inspiré une pièce dont le succès a fini par me consoler. J'ai toujours manqué de cette confiance qui donne des ailes à n'importe quel idiote. Je suis tombée sur un site de conseils pour ménagères de plus de 50 ans en pleine déprime, où il était écrit que les hommes aimaient être séduits par des femmes indépendantes, fortes et déterminées, qu'ils détestaient les filles molles et chiantes comme la pluie. Chiante comme la pluie, c'est bien ce que je suis dès que je quitte ma peau de dramaturge et me glisse dans les draps rêches d'une existence sans relief. Chiante comme la pluie. La pluie, elle tombe sur le pare-brise, chiante, froide et triste. Aussi triste que ce genre de conneries dont regorge le net. Oh, on croirait la voiture cernée par les tambours du Bronx. Mon cœur cogne fort, à m'étourdir. Il faut pas que mon cœur se mette à battre trop fort, pas maintenant. Mise en route des essuie-glaces. Avec l'âge, j'avais l'espoir d'être moins perméable à l'amour, cette déchirure qui n'en finit pas de saigner jusqu'à l'âme, cette plaie dont on ne guérit jamais et que l'on colmate par le mariage et la vie plan-plan. Bon, j'ai le profil bas. Celui de la mère hyperactive, qui s'épuise à tout mener de front, seule, dans le crépuscule de son désir, pour l'homme dont elle partage la vie jusqu'à l'usure, l'épuisement des batteries et du supportable. Prendre sur soi est mon quotidien, au propre comme au figuré. Prendre un homme contre moi et le bercer, le rassurer sur sa 60aine à venir, ses performances au lit, sa mémoire qui flanche. Et de 3 enfants, je suis passée à 4, sans effort et sans même avoir conçu. Un mari qui régresse et dont l'âme rajeunit, à l'inverse de son corps vieillissant. Comment faire du neuf avec du vieux? Je l'ignore. Quand je lui parle de sa tendance naturelle à se comporter avec moi comme si j'étais sa mère, il dit que je l'infantilise, et entonne l'éternel succès que nous chantent si bien les manipulateurs nés. Oh, ne t'en prends qu'à toi-même si on en est arrivé là. Oh, niveau cours de récré. Lu sur ce site que mon profil, celui de la Desperate Housewife, est tout sauf séduisant. L'homme attend d'une femme quel est le sens du leadership et le sens pratique, à ce qui paraît. Moi, je ne sais pas ce qui est le plus désespérant dans l'affaire, hein. Moi ou ce site débile. Ok, Google, réussir une histoire d'amour après 50 ans. Mon smartphone fait tournoyer 3 points de couleur sur l'écran avant de répondre de sa voix de fille parfaite.
Trouver l'amour après 50 ans n'a rien d'un jeu d'enfant. Soyez un cordon bleu en cuisine et une pute dans le lit n'est pas forcément un conseil à suivre au pied de la lettre.
La porte s'ouvre et Félix s'engouffre dans ma Fiat.
Ah, désolé de t'avoir fait attendre, Karina. J'avais ma mère au téléphone.
Félix, l'élégance même, la sensualité animale du félin, la virilité cachée sous un pull de laine et un manteau impeccablement coupé. La quintessence du beau mec, dans la force de l'âge, adepte du vélo et des salades veggie, 100% healthy, au pédagogie.
Mais t'es sûr que ça te dérange pas de m'accompagner?
Hier encore, j'étais sur Facebook à mater sa page. Les dépenses excessives du gouvernement, les étudiants tabassés, l'eau de la planète pillée par Coca-Cola, la pétition contre la fusion Bayer-Monsanto. Il partage presque toutes les vidéos de Brut et Arte. Il a la page, celle des grandes causes et des contenus censurés. L'orage gronde dehors et Félix met sa ceinture.
Qu'est-ce que ça tombe? Si tu pouvais me déposer là, près de la mairie à Montreuil, ce serait génial.
Pas de souci. Ok Google, mairie de Montreuil.
Durée du trajet depuis Belleville, 27 minutes.
Dehors, une dépression provoque ce temps agité et instable, un vrai déluge. Dedans, Félix, dont depuis des semaines je repousse la tempête. Oh. Ok Google, et si je laissais tomber? Ma messagerie grouille de SMS d'Hélène, mon agent. Ah, déconne pas, Karine! Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous feriez un couple génial! Tu t'étioles avec Jean-Marc. Allez, fonce, ma belle! Ton divorcé est single! Pas de nana à l'horizon depuis 2 ans. Ah, ok, Hélène, démarrez la voiture et voir où tout ça nous mène.
Prendre la direction sud-est sur boulevard de Belleville.
C'est vraiment sympa de me déposer, hein. Mais dis donc, ça te fait un sacré détour, non?
Franchement, non.
Tu devais pas aller voir Balasco au Théâtre Berthaud?
J'ai plus goût à grand-chose. Presque rien mangé depuis 3 semaines. Le régime Red in Love. J'ai le cerveau d'une ado.
Faire demi-tour à rue de la Fontaine au Roi.
Félix, replié sur son siège, mon beau quinca, ignore sa capture. Divorcé! Le mot magique, lâché au détour d'une conversation comme un feu vert allumé dans mon cerveau. Dire qu'au début, le voir ne me faisait ni chaud ni froid. Yvan, le metteur en scène de ma dernière pièce, San Cugat del Vallès, avait organisé un rendez-vous dans un resto et j'avais trouvé Félix limite pénible. Un comédien est capable de vous saouler de compliments pourvu qu'il ait le rôle principal. Ses sourires ressemblaient à ceux qu'un élève ferait à un examinateur pour s'assurer une bonne note à son examen. Je voyais rien en lui d'excitant, sinon son talent. Hein. Physiquement, je trouvais pas de séduction à sa façon de bouger les épaules comme ma fille, frotter ses mains comme ma mère, et hocher la tête comme mon banquier dès que je prononçais une parole. Une lumière froide marquait ses traits, affadissait son regard. Et le metteur en scène insistait. Devant l'évidente adéquation, le personnage de la pièce et Félix partageaient les mêmes origines espagnoles, ce côté rablé, vif et nerveux. Oh, j'avais donné mon accord pour le rôle. Trois semaines plus tard, une lecture était organisée au théâtre. Sur scène, Félix se révéla excellent dans le monologue du tueur. Depuis les gradins, je voyais ce grand animal prendre ses marques sur la nouvelle piste, qui serait bientôt la sienne, rabattre la capuche sur son visage, saisir une barre de fer et frapper les corps invisibles des indigents dans la nuit artificielle d'un spot bleu. Lorsqu'il me rejoignit pour me questionner sur tel ou tel passage, je constatai que son rapport à moi avait soudain changé. Félix était beaucoup plus naturel, libéré de tout enjeu professionnel et de fausses séductions.
Prendre à gauche sur rue de Belleville.
Depuis, j'assiste à toutes les répétitions. Je monte parfois sur scène pour réagir à une proposition du comédien. Il m'appelle de sa voix râpeuse et je viens à lui, légère, hypnotisée déjà. Un grain de beauté se révèle au pli de son cou lorsqu'il penche la tête sur son texte et cette fossette au menton, tendue vers moi comme un abricot. Tout à l'heure, il m'a demandé si l'intention nouvelle qu'il donnait à sa réplique me convenait, si l'on devinait le désordre dans sa tête, le tremblement de ses mains. Il n'a pas vu le désordre dans ma tête, le tremblement de mes mains. Oh, Félix, mon tourbillon. Je ne sais plus quand j'ai compris que je mourrais plus vite de ne pas me laisser l'aimer. Ok, les sujets de conversation à éviter avec un homme. Je les ai aussi trouvés sur Google. Ma vie sentimentale, les conflits avec mes ados, la ménopause, ma phobie des journalistes. Enfin, tout ce dont j'aurais envie de parler avec lui sans phare, histoire de me confier. Tout ça, ça me compresse le plexus et ça m'est interdit. Le net nous enseigne les bonnes manières, le badinage et l'art du mensonge en toutes circonstances. Alors, comment va ta mère ? Depuis qu'il a grimpé dans ma voiture, Félix est tendu. À cause de sa maman, il a des soucis avec elle, plus de 80 ans. Bah oui, ça pèse lourd sur le moral. Et puis ça tombe facilement, hein ?
Ouais, elle va mieux, je te remercie.
Oh, le ton est monocorde. Félix n'a même pas retiré son écharpe. Il est tout morose sur son siège. Sans perdre de sa prestance, mon Hidalgo Cromel.
Oh, se retrouver avec des parents divorcés en fin de vie, hein, c'est pas de la tarte.
Oh, j'imagine.
Au rond-point, continuez tout droit.
Le couple de ses parents, détruit de longue date. Chacun dans un EHPAD. Je pense à mon propre couple, à la perspective de sa lente agonie, et je prends conscience que l'homme, assis près de moi, pourrait bien être le bon dernier de ma vie.
Si j'avais su que j'aurais à supporter de les voir se détester aussi longtemps, tiens, je me serais arrangé pour les perdre dans la forêt.
J'apprécie son humour. Vieillir aux côtés de Félix, décliner jusqu'à la lie comme une bonne petite bourgeoise. Ok, compatibilité amoureuse, taureau et sagittaire. J'ai fait mes recherches. La loyauté et l'engagement sont essentiels à l'homme taureau pour qu'il se sente heureux et en sécurité avec la femme sagittaire. Et il se trouve que je suis une femme loyale et très engagée.
À droite, prendre la bretelle vers A3, aéroport Charles de Gaulle, Lille, A4, Metz, Nancy, porte de Bagnolet, Montreuil.
La question à laquelle Google a aussi répondu sans problème, c'est « Pourquoi Félix m'attire ?» Et pas Yvan, qui est 10 fois plus sexy, mais du signe de la Vierge. Une femme sagittaire serait, semble-t-il, attirée par un homme taureau, si elle estime que cette nouvelle aventure sera passionnante, longue, sincère, et s'il partage déjà un lien d'amitié. Bah, merci Google, bah, tout ça m'encourage. Prendre le risque d'un monumental râteau en pleine ménopause revient à se lancer du haut d'un pont sans élastique. Mais à défaut d'un abricot, je tire une pomme de mon sac et la croque, retenant cet élan, me pendre à son cou, embrasser ses lèvres, le petit creux sous l'oreille.
Prendre la sortie en direction de Porte de Bagnolet.
Ouais, tu sais, au téléphone, maman se plaint que le personnel de l'EHPAD la traite comme un gosse. On l'obligerait à manger des plats qu'elle aime pas, à se coucher quand elle a pas sommeil. Elle a même plus son mot à dire maintenant. Ouais, on vit vraiment une époque formidable.
L'habitacle s'emplit d'un parfum acidulé de pommes golden. Envie de suivre Félix partout où il mettrait les pieds, même dans un EHPAD. Un homme qui sent bon le cèdre aromatique, vit seul dans un charmant pavillon aux portes de Paris et dont les deux fils font leurs études supérieures au Canada. Que demander de plus ? Un homme dont ma fille aînée sait déjà tout. Maman, c'est clair, tu le kiffes à mort ! Mettre Anna dans la confidence de ma vie sentimentale et dans cette logique de vie recomposée, mon mari n'est pas son père. Hein. On se dit tout, dans la limite du possible. Surtout quand nos vies sentimentales se cassent la gueule, aussi vernies l'une que l'autre.
Tiens, j'ai appris hier qu'un des pensionnaires s'est laissé mourir parce qu'il supportait plus qu'on le couche à 6 heures du soir.
Oh. On dirait le sujet d'une de mes pièces.
Mais oui, Karine, il faudra que tu l'écrives.
Oh, tu m'aiderais ?
Absolument.
Des trombes d'eau sur le pare-brise. Les essuie-glaces évacuent la flotte comme on écope la coque d'un bateau près de chavirer. Oh putain de météo. Il avait pourtant dit, hein, aux infos.
Dans la nuit de dimanche à lundi, cette dépression va frapper la Bretagne, puis l'Île-de-France, avec des rafales à plus de 70 km/h. Les averses resteront fréquentes toute la journée, reprenant même de la vigueur sous un ciel très chargé. Les températures poursuivront le mouvement de recul déjà initié dimanche. 7 degrés minimum, 12 degrés maximum.
Félix, mon tourbillon. Il faut pas que mon cœur se mette à battre trop fort. Pas maintenant. Je réalise soudain qu'on est déjà sortis de Paris. Le temps presse. Ok Google, zone érogène, phéromone, désir, passion, émotion. Hier soir, j'ai balancé les mots-clés d'un bloc pour me débarrasser et tenter le diable. Connaître le feu de l'émotion, cette chute brusque de la conscience dans le magique, cher à Jean-Paul Sartre. Aborder Félix sur un plan moins vertueux. Abracadabra ! D'une formule, briser l'invisible paroi entre nous. Félix, Félix, j'aimerais passer plus de temps avec toi.
Continuer sur avenue Cartelier.
Ça te dirait qu'on aille prendre un thé ou un verre quelque part ?
Bon, quand tu veux, avec plaisir.
Bon, je veux dire là, maintenant. Oh, un pli se forme sur son front.
C'est que j'ai déjà un truc de prévu.
Continuer sur avenue de la République.
Ok Google, perdre pied.
Locution verbale, voire aussi perdre contenance, perdre du terrain.
Je fais quoi Google ? Je fais quoi ?
Continuer sur boulevard Rouget de Lille.
Félix, les mots se bousculent dans ma gorge. Je suis très troublée par toi. Il s'est figé, le regard rivé au pare-brise, son silence en plein grabuge. L'averse reprend du poil de la bête.
Vous êtes à 96 mètres de votre destination.
Félix s'affaisse un peu plus sur son siège. Il baisse les yeux sur sa sacoche, qu'il serre contre son torse comme si j'allais la lui voler.
Je sentais bien qu'il se passait quelque chose entre nous. Sans rapport avec ta pièce. Si tu peux me déposer un peu après l'arrêt de l'autobus là-bas, ce sera parfait.
Mairie de Montreuil, vous êtes arrivée.
Essuie-glace au ralenti, je coupe le moteur. Crépitement de la pluie sur le capot. Pas une oreille ne bouge dans la voiture et pas une réplique ne me vient. Pas la moindre didascalie. Mortifié, à sec.
Écoute, Karine, je suis très honoré, touché par ce que tu ressens pour moi. Non mais du fond du cœur. J'aurais tellement aimé, tellement, mais je suis pas... Je suis pas libre.
Félix plonge son regard dans le mien et je devine ce combat intérieur du comédien. Ok, Google, que se passe-t-il si je refuse les avances de l'auteur de la pièce dans laquelle j'ai le premier rôle ? Doucement, il caresse mon visage, comme s'il hésitait encore. Bredouille qu'il regrette, il regrette infiniment.
Excuse-moi, Pardon, Karine.
Un soupir s'échappe de ses lèvres. Puis, d'un geste ferme, il ouvre la portière et m'abandonne au bruissement de la pluie. Félix, mon tourbillon. Foutue horloge de l'existence et foutu désir qui gronde et me dévaste. Fauché par la douleur, presque une petite mort. Sous un ciel de plomb, en fusion, remettre le contact. Ok, Google, efface l'historique de navigation.
Sur RCN,
une émission proposée par la revue Les Refusés.
C'est La Jolie Fiancée, composée et interprétée par Jean-Jacques Boulet, que vous avez entendue en début et en fin de cette nouvelle. Nous allons maintenant vous proposer Simple Formalité, une courte nouvelle confiée par notre ami Gérard Streff. Je tiens à préciser que toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé seraient purement fortuites et ne pourraient être que le fruit d'une pure coïncidence.
Ce devait être une simple formalité pour le sergent Tom Brining. Un aller-retour, vite fait, bien fait, c'est du moins ce qu'il pensait en filant plein sud. Browning était attaché à la brigade des Borders, les gardes-frontières entre le Texas et le Mexique. Et ce jour-là, il avait rendez-vous avec José Renatas, le dernier habitant de Maramotos, à un lieu-dit. Oh, même pas un hameau composé de deux bâtisses improbables et au milieu de nulle part. À droite, du bled. À gauche, devant, derrière, c'était le même décor desséché, plat, rongé, 365 jours par an par un imperturbable soleil. Un no man's land que... seul traversait parfois de petites colonnes de poussière et de broussailles, poussées par un vent paresseux.
Oui, mais Maramotos présentait une particularité. Ce trou perdu était situé sur la frontière, très exactement sur la ligne de démarcation entre les deux pays. On ne savait pas au juste quelle était la nationalité de José Renatas. Américain ? Mexicain, américano-mexicain. Curieusement, personne ne s'en était jamais soucié. Ce coin et son habitant ne faisant jamais parler d'eux, la société les avait en quelque sorte oubliés. Tom Browning avait entendu une vague histoire selon laquelle le père du shérif actuel aurait jadis sympathisé avec le père de Renatas. D'où cette bienveillance persistante. Mais tout cela était de la préhistoire, un truc qui remontait à Mathusalem.
Maramotos semblait donc installé à vitam aeternam dans son moite marasme, son éternité torpide. Mais un jour, un certain Donald Trump, du haut de sa maison blanche, considéra qu'il était urgent de construire tout le long de la frontière un mur. Non, pas un muret symbolique, un truc de jardinet, non, mais un énorme bazar, une muraille d'acier de plusieurs mètres de haut, allant du Pacifique à l'Atlantique, et coûtant son paquet de milliards. Ouais. Longtemps, Maramotos, préservé de la fureur du monde, ignora le projet trumpiste. Jusqu'à cette visite du sergent Tom Brady.
Ce dernier, en effet, informa José Renatas de la décision de Washington. Un mur gigantesque allait donc passer par son village. Le sergent laissa le vieil homme digérer l'énormité de la nouvelle. Puis, il précisa sa demande. La frontière semblant traverser sa ferme en son centre, il n'était pas question de couper son logis en deux, comme deux parts de gâteau, non. Le magnanime Branning était porteur d'une belle proposition. Le mur allait contourner le hameau. C'était technologiquement faisable, à peine plus coûteux. Simplement, pour suivre le protocole, le sergent devait demander, question de pure forme, s'excusa-t-il, au résident, de quel côté de la frontière il voulait se situer. Plus exactement encore, voulait-il résider au Mexique ou aux États-Unis d'Amérique ? Le sergent semblait presque gêné par l'incongruité de sa question.
José Renatas hocha la tête, hésita, tout sauta, se trouva 10 occupations pressantes, terminer sa vaisselle, proposer à son hôte une bière, ramasser des miettes sur la table, bref, il tergiversait. L'autre insista. Au bout d'un temps infini, José Renatas murmura
« Et le Mexique ?»
Tom Branning n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Vous voulez que votre maison soit en territoire mexicain » s'étonna-t-il.
Si, du côté mexicain, si, seigneur. »
Sidéré, Tom Branning prit acte de la réponse. Déjà au volant de son 4x4, il allait repartir quand il apostropha Renatas pour lui demander « Mais franchement, entre nous, dites-moi, pourquoi vous avez choisi le Mexique ?»«
Sergent, on m'a parlé d'un climat si aride du côté américain. »
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Sur cette lecture de la nouvelle « Simple formalité » que nous venons de vous lire, vous avez pu entendre une des musiques que Jean-Jacques Boulet a aussi composées. Elles sont extraites de son dernier disque « Je viens des Vosges » que vous entendez assez souvent sur RCN. Auteur, compositeur, mais aussi écrivain et lecteur sous le nom de John Bullitt, je lui laisse le soin de clôturer cette émission.
Chère Christine, avant de rendre l'antenne, je voulais savoir quelque chose au sujet de ton nouveau livre qui va bientôt sortir en librairie.
Alors, il est sorti il y a 3 jours, en fait. Il s'appelle « La plus belle surprise de Pâques ». Et c'est un livre qui va être un petit peu adapté à certains événements qui arrivent prochainement. Et c'est une histoire, c'est un album pour les petits entre 3 ans et 7 ans. Et c'est l'histoire d'une bande de copains qui trouvent un œuf de Pâques énorme, merveilleux, superbe. Sauf qu'il va leur arriver des aventures, voilà.
Extraordinaire, je suppose.
Extraordinaire. Ouais. Il y a une grosse poule qui va décider que c'est son œuf. Voilà.
Oh, d'accord.
Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, ce fut une joie pour moi d'avoir pu vous lire aujourd'hui avec mes deux complices du jour, Evelyne et Christine, ces deux très jolies nouvelles au cours de cette 18e émission des Refusés. Alors, je vous dis donc à bientôt, les amis.
Au revoir.
Au revoir. Ha, 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 ha.